Donc le choix du thème ce soir, c'est la capacité, notre capacité de faire des bons choix. Et donc c'est la première étude d'un cycle que nous avons voulu sur la maturité, c'est-à-dire quand on a dit, le titre c'est « J'ai décidé de grandir ». Ça veut dire, l'année dernière, on a vu les bases, un certain nombre de choses. Et puis, cette année, je vous rappelle, c'était l'épître de Jacques. Hein, et cette année, nous avons pensé que ce serait bien d'aborder une série de thèmes. Alors, ils ont été mis dans le quad neuf de dimanche dernier. Mais bon, on n'a pas imprimé un papier parce qu'on pense que ça va peut-être un petit peu bouger dans le temps. Donc, pour l'instant, on avance pas après pas. Ceci dit, la première étude, elle porte sur les choix mûrs. Alors, c'est un titre un peu sévère, les choix mûrs, ça fait un peu bizarre. Mais c'est parce que le thème de l'année, c'est la maturité. Alors, je me suis dit, il faut que je le mette dans le titre. Voilà pourquoi j'ai choisi ce titre. Comment prendre de bonnes décisions de manière intelligente, de manière sensée? Comment faire les bons choix? Je me souviens, d'ailleurs, c'est une feuille que je viens de retourner à l'instant, qu'Étienne avait abordé cette question au cours de l'année, je ne sais plus quel mois maintenant, au cours de l'année passée. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, c'était encore dans la salle verte. Alors, bien sûr, je vais dire l'inverse de ce qu'il a dit, hein, c'est évident. Comme il n'est pas là, en plus, je vais en profiter. Voilà. Je vous propose une toute autre approche qui ne va évidemment pas contredire ce qu'il a dit lui de son côté. Et je vous propose une série de lectures dans la Bible, à commencer par le tout début, le troisième chapitre de la Genèse. Parce que là, il y a un choix, il y a une femme qui a fait un choix. Prenons le récit de la tentation d'Ève dans Genèse chapitre 3. Observons tout d'abord, donc je pense que ce n'est pas difficile à trouver, Genèse 3 pour ceux qui ne connaissent pas bien la Bible, c'est tout au début. Prenons tout d'abord l'attitude du serpent. Le serpent qui incarne le diable dans ce récit extrêmement complexe malgré les apparences. Je lis au début du chapitre 3, le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Dieu le sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue, qu'il était cet arbre désirable pour le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Voilà, j'arrête là la lecture. Donc j'ai lu les quatre ou cinq premiers versets, ou six. Le serpent n'a absolument pas forcé Ève, vous notez. Il lui a proposé un choix. Il ne l'a pas prise par la main, enfin, ceci dit, oui, l'image est maladroite. Il n'a exercé aucune force sur Ève, mais il l'a mise devant un choix. Il a tout d'abord remis en question ce que Ève avait entendu. J'entends parfois dans les discussions sur le rôle des femmes que dans ce récit, Ève n'était pas au courant de ce que Dieu avait dit à Adam. Erreur, elle le répète très bien. Dieu a dit, vous ne mangerez pas, enfin, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, versets 2 et 3, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Première attitude, première attaque du serpent, il remet en question la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit ? Mais le coup ne porte pas, puisqu'Ève répond, oui, Dieu a dit. Oui, il a dit. Il n'y a pas de doute là-dessus. Deuxième coup que le serpent porte, il contredit la parole de Dieu et il dit, pas du tout, verset 4. Vous ne mourrez pas. Donc là, il contredit, il dit autre chose. Et troisième coup que le serpent donne, il redessine une perspective. Vous n'allez pas mourir, enfin c'est un peu la suite du deuxième coup de contredire Dieu. Il redessine une perspective, c'est-à-dire qu'au lieu de mourir, vous allez discerner le bien du mal. Et ça, c'est une très bonne chose. Si nous parcourons la Bible dans son ensemble, nous verrons que dans les occasions les plus... pour décrire la perdition, un des éléments, c'est ces hommes ne distinguent pas le bien du mal. Et aujourd'hui encore, on dit, pour décrire la perte des valeurs, on dit les gens prennent le bien pour le mal et le mal pour le bien et on n'a plus aucun discernement. Mais c'est précisément ce que le serpent propose à Ève. Tu vas discerner le bien du mal. C'est une excellente chose. Vous commencez à vous inquiéter, vous êtes en train de vous demander mais où allons-nous alors si Satan propose de bonnes choses à Ève? Il lui donnait une certaine vision des choses pour qu'elle choisisse de cueillir ce fruit qui était défendu. Et puis Ève a regardé le fruit, elle l'a trouvé beau. Moi, nous sommes allés en Normandie, il y avait des pommiers chargés de pommes. On les trouve beaux, ces fruits, on a envie de les manger. Et c'est tout à fait naturel. Allons-nous regarder de haut la création de Dieu et dire ben non, ces arbres-là ne sont pas bons. C'est tout à fait normal de trouver qu'un arbre est attirant, et surtout s'il porte de bons fruits. Et Ève avait compris, d'après ce que le serpent disait, qu'elle gagnerait en discernement. Imaginez une pêche et qu'en plus elle vous rend intelligent. On va en prendre deux, hein. Ben voilà, Ève a choisi. De manger ce fruit. Elle a laissé de côté ce que Dieu avait dit, qu'elle avait entendu, et elle a choisi de manger ce fruit. L'apôtre Paul, quelques siècles, millénaires et beaucoup de temps après, va écrire à Timothée, en faisant allusion à ce récit, 1 Timothée 2, que Ève a été trompée ou séduite. Et le choix qu'elle a fait a été néfaste. Elle a invité Adam à faire ce même choix et il s'est aussi laissé séduire. Et puis après, on sait les conséquences. Il a dû quitter le jardin d'Éden, etc. Alors, les choses qu'Ève a vues étaient légitimes, je le répète. Il est légitime de chercher à discerner le bien du mal. Il est légitime de manger ce qui est bon. Mais il est aussi légitime d'user de la création avec respect pour le Créateur. Et c'est là que le bât a blessé pour Ève et pour Adam. Ils avaient laissé de côté ce que Dieu leur avait dit. Et ils ont préféré écouter ce que le serpent ou Satan disait. Le principe de la création manquait à Ève. Au moment où elle a fait le choix de manger, elle a oublié où elle était. Elle a oublié d'où elle venait. Elle a oublié qui elle était. Alors, on qualifie souvent le choix d'Ève du choix salutaire parce que c'était l'émancipation, parce que c'était la désobéissance. Les psychologues s'en donnent à cœur joie. Je me souviens en avoir lu un peu quelques lignes à ce sujet. Mais néanmoins, il y a le problème de l'oubli de Dieu. Et du coup, je propose. Alors, vous avez vu, j'ai mis sept numéros. Et donc, c'est sept principes. Moi, je vais vous donner sept principes. Vous les soumettre, vous les proposer, sept principes. Le premier principe, c'est précisément celui que je viens de dire. Le choix mûr à conscience de Dieu. Jamais, pour faire nos choix, nous ne devons oublier que nous sommes créatures de Dieu, que Dieu est notre Père céleste, que Dieu a créé ce monde tout entier et que nous n'en usons pas comme bon nous semble, mais que nous sommes chez lui. Cette position a des conséquences sur, par exemple, l'écologie. On parlera plus tard. Mais en l'occurrence, ça a aussi des conséquences. C'est ce qu'Ève a oublié et ça a eu des conséquences difficiles. Parce que quelquefois, on se laisse tromper, on se laisse abuser. Ceci dit, l'histoire ne s'arrête pas là avec les choix, et on pourrait dire Dieu aurait pu se lasser et dire la première a mal choisi, maintenant je ne vais plus les laisser choisir. Au contraire, le récit de la Genèse est là pour poser un principe qui va être universel, celui de la détermination. À tout moment, et d'ailleurs on peut même trouver là la raison de l'existence de cet arbre. Pourquoi y avait-il cet arbre dans le jardin ? Précisément parce que la nature humaine est faite pour se déterminer, pour faire des choix. Et celui qu'Ève a fait a été malheureux, et avec elle Adam, je précise toujours parce que c'est facile, hein, dire c'était la faute d'Ève, avec elle Adam. Mais Dieu va rester sur cette ligne de donner toujours le choix. Prenez cette fois un peu plus loin dans la Bible, Deutéronome, chapitre 1. Sauf erreur, un petit doute sur mes notes. Deutéronome, chapitre 1, et puis ensuite on lira un autre texte à la fin du Deutéronome. Alors je vous rappelle que le Deutéronome, c'était, comme son nom l'indique, un deuxième corpus, une deuxième loi, et ce Deutéronome venait conclure la Torah, la partie maîtresse de la Bible juive. Enfin, vient toujours d'ailleurs la conclure. Deutéronome 1, verset 26. Oui, eh ben c'est bien ce que je pensais, je me suis trompé dans les références, j'ai oublié un chiffre. Alors c'est pas grave, je vous propose Deutéronome 30, je crois que c'était 12, mais on va pas perdre notre temps, je me suis trompé en recopiant. Deutéronome 30, donc là on est à la fin du livre du Deutéronome, verset 15. « Regarde, j'ai placé aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. » Bon, si on prend un peu de recul, je m'arrête un instant dans la lecture, mais ça nous aide à comprendre qui est Dieu, cette petite phrase. Parce que Dieu met devant le peuple la vie, mais aussi la mort. Cette liberté-là, elle est entière pour le peuple. Même si après, nous verrons que le péché finit par nous asservir. Mais là, Dieu donne le choix. Ce que je t'ordonne aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur, je prends au verset 16, d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de suivre ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin que tu vives et que tu te multiplies et que le Seigneur ton Dieu bénisse dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, et là on a Ève, on a l'image d'Ève. J'ai perdu ma ligne de servir. Verset 18, « Je vous le dis aujourd'hui, vous disparaîtrez. Vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où tu entres pour en prendre possession en passant le Jourdain. » Donc il s'agit du pays, de la terre promise, le pays d'Israël. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur, ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui. C'est lui qui est ta vie, la longueur de tes jours, pour que tu habites sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. » Alors ce petit texte choisit la vie, j'imagine que je ne suis pas le seul à le connaître, choisit la vie afin de vivre. Il y a des règles, il y a des prescriptions qui sont citées dans ce texte que je viens de lire, et on peut le résumer en disant c'est la loi avec un grand L, la loi de Moïse. Toutes ces règles, ces prescriptions, que nous chrétiens avons tendance à considérer comme peut-être des fardeaux, une sombre obligation, un genre de loi qui est sans pitié pour celui qui désobéit, etc. Mais dans ce texte, elle apparaît comme une faveur. Choisis la vie, choisis le bonheur, fais ce que je te dis et ce sera la belle vie. Donc la loi est bonne dans ce texte. Elle n'est pas là pour punir, elle est là pour le bonheur, pour rendre heureux. Ce n'est pas une sombre liste d'observances, ce n'est pas non plus une liste, enfin une collection de pièges pour nous faire tomber on imagine Dieu prêt à nous taper dessus avec son bâton. Non, la loi est bonne. Et nous sommes toujours dans ce choix mur numéro 1. La loi de Dieu est bonne et nos choix doivent en avoir conscience. Si Dieu me dit quelque chose, si la Bible me dit quelque chose, c'est bon et je vais en tenir compte si je veux faire des choix de bonheur, de vie. Plusieurs questions se posent, ceci dit. Quelqu'un veut intervenir ? Je fais un peu le monologue là, mais bon. Vous dormez bien, ça va ? Ouais. Je continue ? Alors, plusieurs questions se posent. Comment connaître la volonté de Dieu, la loi de Dieu ? On dispute parfois sur le sens de tel ou tel chapitre. Finalement, c'est quoi qu'il faut faire pour être heureux ? L'un dit une chose, l'autre une autre. Comment connaître la volonté de Dieu pour l'intégrer dans nos choix ? Comment la traduire en actes ? Allez, un autre texte. Cette fois-ci, on va sauter dans l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu, premier évangile du Nouveau Testament. Alors au chapitre 23. Vous savez, c'est quand Jésus s'en prend aux pharisiens et qu'il il les habille pour l'hiver, hein, là, les pharisiens. C'est un moment où j'aurais pas aimé être pharisien, d'autres non plus d'ailleurs. Chapitre 23, verset 23. « Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens, hypocrites ! Vous payez la dîme de l'amande, de la nette et du cumin, et vous laissez de côté ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la compassion et la foi. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Guide aveugle qui retenait au filtre le moucheron et qui avalait le chameau. » C'est vache. C'est dur ce que dit Jésus là. Et Jésus critique une mauvaise manière de tenir compte de la volonté de Dieu. Alors, deuxième principe. Observance ne vaut pas confiance. Ne vaut pas confiance. Oui, conscience, c'est bien ça. Ce que j'ai écrit, c'est juste, et ce que j'ai dit, c'est pas juste. Bon, il y en a qui écoutent, c'est bien. Observance. Les pharisiens observaient. Ils avaient une observance très poussée. Mais Jésus leur reproche d'avoir perdu leur conscience, d'avoir perdu l'esprit de la loi. Ils en avaient fait une collection de règles, toutes plus dures et plus sèches les unes que les autres, que eux-mêmes d'ailleurs ne voulaient pas toujours pratiquer, mais qu'ils savaient très bien imposer aux autres. Jésus leur dit, vous n'avez rien compris. Faire la volonté de Dieu, c'est avoir l'esprit, c'est avoir compris dans quel esprit la loi a été donnée. Ce n'est pas se livrer à une observance légaliste extérieure. de la loi. Et là, il cite un exemple très, très parlant. Alors, la menthe, l'aneth et le cumin, ce sont donc des petites plantes, hein, des épices qu'on met dans la cuisine, etc. Bon, c'est quand même pas ce qui va ruiner, quelqu'un. En revanche, alors là, ils étaient très pointilleux, ils devaient faire toutes sortes de règles. Je vous fais grâce de la littérature qui existe là-dessus, qu'on a pour partie à la bibliothèque, qui est intéressante d'un certain point de vue, mais surtout affolante. Parce qu'on voit jusqu'où ils vont dans une casuistique phénoménale. Mais là, Jésus leur dit, mais bon, ça, ouais, d'accord, il faut le faire. Mais n'oubliez pas l'essentiel. Et l'essentiel, il le dit, c'est la justice, au sens... La justice, faut comprendre, c'est quand quelqu'un est juste, ça ne veut pas dire qu'il n'a juste pas fait des mauvaises choses, ça veut dire que c'est injuste dans l'âme. La justice, c'est quelque chose de positif. Ça veut dire qu'on est juste avec les autres, qu'on les aime. La justice, c'est quelque chose qui est très proche de la miséricorde, par exemple. La justice, bah, d'ailleurs, la compassion, voilà. Et puis la foi, qui peut aussi se traduire par la fidélité. Donc on voit des notions que la loi enseigne très profondément, très fortement. Et que là, les pharisiens oubliaient plus facilement que leur dîme sur les 10% de la menthe. 10% de la menthe, ça ne va pas chercher loin. Hein, c'est... Observance ne vaut pas conscience. Et dans nos choix, nous, évangéliques, prenons garde. Et je ne vise personne, sinon moi-même. Hein, je ne peux pas faire la leçon à quiconque. Mais prenons garde de ne pas nous satisfaire simplement d'obéir à la lettre, alors que nous en oublierions l'esprit. Hein, l'esprit vivifie et la lettre tue, est-il écrit ailleurs. Prenons garde de ne pas être légalistes et de ne pas imaginer que nous faisons la volonté de Dieu en ne nous livrant qu'à une observance extérieure comparable à celle que Jésus critiquait chez les pharisiens. La conscience, c'est celle qui va nous aider à faire les bons choix, les choix mûrs. Et cette conscience-là, elle est nourrie par la parole de Dieu, par le fond, par la révélation de sa volonté. Alors, troisième principe. Mince, il faut que je me relise. Vous arrivez à lire là où c'est mieux le bleu peut-être, non ? Ça va ? Maintenant, je ne sais plus mon texte, c'est quelque chose. Une autre manière de mal appliquer la volonté de Dieu, c'est de ne pas la connaître. Et prenons garde prenons garde de rester en surface. Ouais, j'ai lu la Bible une fois, enfin j'ai lu Genèse 1 il y a 15 ans, et puis après c'était trop compliqué, j'ai arrêté, mais je veux faire la volonté de Dieu dans ma vie. Ben mon gars, comment tu vas faire ? Tu l'as pas lu ? Pour moi, la Bible nous donne la base de la volonté de Dieu, nous donne la volonté de Dieu pour son peuple. Si on la lit pas, si on n'en tient pas compte, on pourra pas l'appliquer. Puis là, je vais ranger mes feuilles.
Donc, l'ignorance dessert la confiance. La confiance, la conscience. Non, mais c'est bien, je fais des petits pieds exprès, en fait. Hein.
L'ignorance... Non, c'est pas le bon, ça. On va...
Voilà. Je tiens que là, oui. Ça vient, hein, ça vient, vous inquiétez pas. Hein. Je suis pas encore tout à fait revenu de vacances. Là. Voilà.
L'ignorance dessert la conscience. Vous avez compris le principe ? Donc ça veut dire, chers amis, l'étude biblique qu'on fait cette année, si vous voulez être des chrétiennes et des chrétiens mûrs, si vous voulez grandir, si vous voulez, si nous voulons, parce que je me mets dedans, avoir assumé, être solide. Mais il faut étudier, il faut réfléchir. faut pas se contenter. Alors, je vous fais la leçon, mais vous êtes là. Il faudrait le dire à ceux qui sont pas là, évidemment, comme toujours. Mais qu'importe, que ça nous encourage simplement. Et je vous dis, vous avez bien fait de venir. Allez, on va passer au quatrième principe. Alors, bon, je vais prendre le bleu parce que non, si ça va, vous arrivez à lire toujours. Bon, alors, les choix mûrs, connaissez. Pas tellement. Bon, allez. Bon, le bleu, ça va pas être mûr, Marc. Mais bon, il y a plus de contraste. Pourtant, je les ai testés, les feutres, avant de partir. Hein. Le choix mûr connaît les tenants et les aboutissants. Vous connaissez l'expression, hein ? Je fais quelque chose, je choisis de faire quelque chose, et après, il y a des conséquences. Ça a des influences sur les gens. Un même acte, en même temps, peut avoir des résonances différentes suivant le contexte. Je vous donne un exemple. Prenez l'histoire de Daniel. Vous connaissez l'histoire de Daniel ? Qu'est-ce qui est dit au début du chapitre, au début du livre, à propos du régime alimentaire, qu'il voulait, il voulait pas manger au McDonald's du roi, il voulait manger seulement sa nourriture à lui, parce qu'il voulait pas se souiller avec la nourriture du roi. Pardon pour le McDo, j'aime ça comme tout le monde. Daniel n'a pas voulu se souiller avec le menu royal. C'était un positionnement. Personne ne l'obligeait à faire ça. D'ailleurs, il a pris des risques. Et il a fait prendre des risques à d'autres. Bon. Est-ce qu'il faut toujours refuser de manger avec un roi ou de manger avec des gens qui ne sont pas croyants ? Est-ce que c'est ça le choix que Daniel nous enseigne ? Prenez Jésus. Jésus, il est à table. On le surprend à table dans l'évangile de Matthieu avec des sales types. Il ne devait pas forcément manger cachère. Ou alors la cacheroute devait être très approximative. Puis il mangeait avec des gens qui sont infréquentables. Des malhonnêtes qui prétextaient collecter des impôts, mais en fait se servaient au passage et étaient à la botte de l'envahisseur. Des femmes prostituées. Qu'est-ce qu'il faisait là ? Donc d'un côté, vous avez Daniel qui a posé un acte fort à l'égard de la cour du roi d'Assyrie, de Babylone, pardon. Et de l'autre côté, vous avez Jésus qui, lui, tranquillement, va manger des gens infréquentables. Vous avez l'apôtre Pierre. Lui aussi, il a encore question de manger, enfin d'être accueilli. Un jour, il y a un païen qui l'appelle, qui le fait venir, et l'apôtre Pierre aurait eu du mal s'il n'avait pas eu cette fameuse vision où Dieu lui disait « Rien ni personne n'est impur. » Et Pierre s'est retrouvé à la table de ce monsieur qui s'appelait Corneille. Donc les choix que Daniel a fait, le choix que Daniel a fait n'était pas mauvais. Ce n'est pas parce qu'il a fait un autre choix que celui que Jésus fera plus tard que Daniel s'est trompé. Mais il était dans un certain contexte. Il fallait qu'il prenne position dans la cour du roi. Il fallait qu'il exprime l'identité du peuple auquel il appartenait et qui était déporté. Il fallait qu'il prenne position face au roi. Jésus, lui, il fallait qu'il montre à ses hommes et à ses femmes avec qui il a mangé que Dieu les aimait. Quelles sont les forces en présence ? Ben, Daniel a fait un genre de grève de la faim, on pourrait dire. Jésus, lui, a choisi le repas de l'amour. J'ai parlé avec Mustapha il y a 2 jours, je crois, puisqu'on se téléphone de temps en temps. Et donc, c'est l'Aïd en ce moment. Et il me raconte un peu comment ça se passe. C'est assez impressionnant. Donc, il est à Casa, hein, Casablanca. Et il voit des gens qui tuent les moutons dans la rue, qui les dépècent dans la rue, parce qu'ils ne peuvent pas le faire chez eux. Alors, il y a du sang partout, enfin, à beaucoup d'endroits, ça coule dans les caniveaux, enfin, c'est assez fort. Et du coup, c'est un acte de société très fort. Et mais qu'est-ce que font les chrétiens dans ce moment-là? À la limite, moi, j'ai déjà mangé un méchoui. Je pourrais dire, les chrétiens, pour faire semblant de faire, ils mangent un méchoui au même moment, quoi. Et précisément, non. Les chrétiens, à ce moment-là, faisaient autre chose pour bien montrer qu'ils n'étaient pas, ils ne faisaient pas l'Aïd. Bon, c'est assez comparable à ce que Daniel faisait à la cour du roi. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut montrer qui on est. C'est le choix de l'affirmation de soi face à un monde qui fait pression. Mais à l'inverse, moi, dans le contexte ici, contexte de la laïcité, de dialogue interreligieux, etc., il m'est arrivé de répondre à des invitations de mosquées et de manger dans une mosquée. Alors, vous voyez la différence. On n'a pas du tout fait les mêmes choix, mais on n'est pas du tout dans le même contexte. Et c'est pas parce que moi j'ai mangé dans une mosquée en répondant à l'invitation de musulmans que les chrétiens de Gaza ont eu tort de ne pas participer à la fête de l'Aïd, sans que ce soit une agression pour autant, bien entendu, ou de la provocation. Vous voyez, le choix mûr connaît les tenants et les aboutissants. Je continue avec l'apôtre Paul. La ligne de base de Paul est de prendre en compte, je suis toujours dans le même contexte, les tenants et les aboutissants, mais je vais quand même arriver au cinquième principe, est de prendre en compte le regard des gens. J'ai ma Bible qui se démonte. Le regard des gens. Et Paul va enseigner qu'on peut faire une chose ou son contraire suivant le regard des gens. C'est presque de l'hypocrisie. Mais en fait, ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de l'amour. Le choix mûr écoute l'amour. C'est le principe numéro 5. Alors là, vous avez le texte sur ce qu'on appelle le texte sur la tolérance, j'allais dire la cohérence, je ne sais pas ce que ça veut dire, la tolérance. Si c'est 1 Corinthiens 6. Si vous avez quelqu'un qui vous invite à manger dans un temple païen, vous pouvez soit accepter, soit refuser. Et c'est la manière dont votre acte sera regardé par les autres qui va dicter votre choix. C'est ça que Paul explique. C'est à Corinthiens 8, pardon. C'est ça que Paul explique aux Corinthiens. Verset 1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles. Donc c'est bien ce que je disais. Hein. Alors il n'y a pas trop de parallèles ici. Hein. Peut-être se faire inviter par des musulmans, mais on ne peut pas faire un parallèle entre des musulmans et des idolâtres, c'est un peu rapide, ça va pas. Donc je sais pas, il y a peut-être quelqu'un trouvera une idée. En tout cas, c'est quelque chose qui va sortir de mes habitudes, sortir de mes convictions aussi. C'est-à-dire que je vais partager quelque chose avec des gens qui ne partagent pas mes convictions. Ça, c'est peut-être le point. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que tous, nous avons de la connaissance. La connaissance gonfle d'orgueil, mais l'amour construit. Si quelqu'un pense connaître quelque chose, il ne connaît pas encore comme il faut connaître, donc il règle un peu ses comptes. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Donc, après cette parenthèse sur la connaissance et l'amour, donc, pour ce qui concerne la consommation des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a pas d'idole. Le raisonnement, c'est la raison. Moi, chrétien, je sais que les idoles ne sont que des bouts de bois ou des morceaux de pierre dans le monde et qu'il n'y a de Dieu qu'un seul, celui que j'adore. Car s'il est vrai que ce qu'on appelle les dieux, bon, après, je passe. Verset 7. Donc, ça veut dire, je peux manger dans un temple où on pratique le culte idolâtre, sachant que dans ma maturité, ma connaissance, je sais que les idoles, c'est du pot, c'est du vent, c'est du bois, c'est de la pierre, c'est rien, donc ça ne m'engage à rien. Paul dira, tiendra un discours un peu différent d'ailleurs à ce propos-là, quelques chapitres plus loin, dans une autre démarche de pensée. On y viendra d'ailleurs, normalement je l'ai marqué dans mes notes. Je dis normalement parce que quelquefois j'oublie de marquer, j'ai l'idée, puis pouit, ça disparaît. Il y a des courants d'air dans mon bureau, c'est pas, je sais pas. Verset 7, mais tous n'ont pas cette connaissance. En effet, quelques-uns, encore tenus par l'habitude des idoles, mangent de ces viandes en les considérant comme sacrifiées aux idoles. Et donc, retournent à un culte idolâtre. Et leur conscience qui est faible en est souillée. Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Et si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Prenez garde cependant que votre droit ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit. Alors là, le critère du choix, il est vraiment chez les autres, là. Et il y a un danger là à faire trop ça, parce qu'on ne peut pas vivre en voulant plaire aux autres et en laissant les autres décider pour soi. Ça ne peut pas être le seul critère de nos choix. Mais c'en est un. Parmi d'autres, vous avez noté que j'en ai mis 7, ils ne sont pas dans un ordre hiérarchique, ou encore que si le premier, on ne peut pas passer outre. Mais il y a quand même toute une... C'est ce qu'on appelle des faisceaux, il va falloir prendre plutôt cet argument ou plutôt tel autre. Parfois, c'est difficile de savoir quoi décider. Mais la maturité, c'est difficile. Donc, si quelqu'un, je reprends le verset 10, si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance à table dans un temple d'idole, la construction de sa conscience ne va-t-elle pas l'amener, lui qui est faible, à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ce sera un problème pour lui, bien sûr. Donc, le choix mûr écoute l'amour. J'aime les autres et je ne veux pas que ma vie soit pour eux un problème. Bon, revenons à Ève. Elle a trouvé les fruits beaux et bons. Alors, on dit que c'est une pomme, hein, on parle de la pomme, mais en fait, le texte ne le dit pas. Non, voilà. Nous avons tous, je reviens, Ève a trouvé le fruit beau et bon. Mais je l'ai dit tout à l'heure, nous avons tous des appétences, nous avons tous des choses qu'on aime, parce qu'on a telle histoire, on est né à tel endroit, on a vécu tel truc, on a peut-être eu des choses bonnes, des choses moins bonnes. Alors on est façonné, notre identité, il y en a certains, ils vont aimer le miel, d'autres, ils vont aimer la confiture de fraises, etc. Et on est, enfin, soyons réalistes, on a tous des petits trucs comme ça qui nous font un peu craquer, quoi. Quand on est au restaurant, par exemple, ça nous arrive parfois, je vous le souhaite, c'est des moments agréables, on choisit ce qu'on aime, on ne va pas choisir sur la carte le truc qu'on n'aime pas, pour nous sanctifier peut-être, je ne sais pas, mais non, on va choisir, ouais ça j'ai envie, de... et puis en plus il est bon ici et tout, mais c'est naturel, et Ève là-dessus, qui peut lui jeter la pierre? Quand on doit s'acheter un vêtement, on s'achète quelque chose qui nous correspond, voilà. Pas de souci. Mais la maturité consiste à prendre une certaine distance, à prendre du recul par rapport à nos appétences. J'en veux pour preuve une petite répartie de l'apôtre Paul dans la lettre aux Corinthiens, toujours. Certaines personnes disaient, c'est un courant gnostique assez bien identifié, gnostique c'est-à-dire d'une grande philosophie au Moyen-Orient à la période de Paul, mais aussi avant et après. Et il y avait un courant qui disait, on fait ce qu'on veut. Ça s'appelait l'anomie, l'absence de loi. On fait ce qu'on veut. Et on voit que Paul cite ce courant-là quand il écrit, tout est permis. Tout est permis. Il y a la traduction parole de vie qui dit, certains disent tout est permis. Et Paul va répondre à ça. Oui, je peux faire ce que je veux du moment que j'ai envie de le faire, que ça me fait plaisir, je le fais. C'est, Il n'y a pas de loi qui va me l'interdire. Et on entend ce genre de discours, et même, je dirais, tout à l'heure, je blaguais un petit peu avec les restaurants, mais il faut avoir de la mesure, quoi. Mais certains en manquent de cette mesure, et font les choses parce que ça leur plaît. Des gens qui sont contents de nous envoyer des gravillons. Alors, Paul répond, tout est permis. Il ne souscrit pas, mais il cite. Et il va répondre, tout ne sert pas. Tout n'est pas utile. Tu peux aimer faire des choses, mais pour choisir de les faire, regarde si ça construit. Regarde si ça va servir à quelque chose. 1 Corinthiens 6, verset 12, et 1 Corinthiens 10, verset 23. 1 Corinthiens 6, verset 12, 1 Corinthiens 10, 23. Et puis, il y a un autre aspect que Paul dit, et on utilise aujourd'hui d'autres mots. Il dit, Paul, tout est utile, tout est permis peut-être, mais je ne me laisserai asservir par rien. Et c'est tout simplement ce qu'on appelle aujourd'hui les dépendances. Personne ne t'interdit de boire de la bière, de boire du vin. Mais au bout du compte, si tu deviens alcoolique, il y a un problème. Donc, cette liberté que nous avons, ces appétences que nous avons et qui sont tout à fait naturelles, légitimes, ayons du recul. Maîtrisons-nous. C'est pas facile. C'est loin d'être facile. Premier principe, ça va être le sixième. Un choix mûr. Tout d'abord, quand Paul citait tout est permis, quand il disait tout ne sert pas. Mes choix, j'ai écrit, un choix mûr contribue à la vie. Tout simplement. Parce que servir, ça veut dire quoi? Servir. Tout n'est pas utile, dit Paul, mais utile, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ne construit pas, tout ne contribue pas au bonheur de soi et des autres, à la vie, à la beauté de la vie. Et c'est pour ça que j'ai résumé tout ça en disant un choix mûr contribue à la vie. Bah, je peux marquer d'ailleurs le dernier choix. Oh, c'est pas possible, j'ai la mémoire d'un poisson rouge. N'asservis pas. Mais... N'asservis pas, ça prend deux S ou un S? Deux S. Ah, j'ai fait une faute dans ma feuille. Voilà ce que j'avais à cœur de vous dire. Le choix mûr contribue à la vie. Peut-être qu'on peut faire plein de choses, qu'on a le droit, que ce n'est pas interdit. Mais à quoi ça sert? Est-ce que ça contribue au bonheur, à la vie, à la lumière, à la bonté? Alors bien sûr, est-ce que je vais choisir des chaussettes rouges ou des chaussettes vertes? Est-ce que ça contribue au bonheur du monde? Bon, peut-être il y a des choix de loisirs, par exemple, des choix de relations sur lesquels il est bon d'avoir ses reculs. Et puis le dernier point, donc j'ai mis les deux petites simplement pour dire le choix mûr n'asservit pas. Bah oui, fais gaffe, ne tombe pas dans une ornière, tu es libre peut-être, et encore, quelle est notre liberté? Mais on parle énormément des dépendances aujourd'hui, de toutes sortes. Je vais citer l'alcool, mais il y en a bien d'autres. Et c'est un des critères, je pense. Il faut rester libre. Pas évident. Alors j'ai quelques autres considérations après ces sept principes. Ça fait bien sept toujours. Hein. J'ai pas fait exprès. Alors, du coup, je suis fier de moi. J'ai sept, c'est le chiffre parfait. Il y a au moins le chiffre qui est parfait. Le reste, bon, bah. Donc, on a fait une petite promenade. J'ai pas gardé un texte en premier, tout seul. Mais je vous ai proposé ce chemin de pensée pour aboutir à ces sept principes. type qui me semble important, en tout cas pour ma part. Après, quelques autres petites idées, en conclusion, un peu allongées, enfin pas trop. Aucun choix n'est parfait. Bon, c'est sûr, il y a une expression qui dit « choisir entre la peste et le choléra hein, ». J'espère qu'on a un peu mieux. On n'a aucune solution qui est parfaite. Jacques Buchold, dans un petit livre qui s'appelle « Les enjeux éthiques », qui est un ouvrage collectif, il n'y a pas que lui qui a écrit, mais là, c'est lui que je cite, qui parle de l'éthique du compromis. Alors, si ça vous fait bondir, le compromis, j'ai pas dit la compromission. J'ai dit le compromis. J'ai pas dit vendre son âme. J'ai dit trouver la meilleure solution, la moins mauvaise, dans une situation donnée. Et l'exemple qu'il nous donne, c'est Matthieu 19, le divorce. Le divorce, Dieu a clairement, Jésus a clairement dit que c'est une mauvaise chose. Alors rassurez-vous, si vous êtes divorcé, je ne vais pas faire votre procès, ce n'est pas du tout l'idée. Mais prenons ce texte qui vous est proposé par l'auteur. Matthieu 19, 4. Des pharisiens, enfin je recommence un peu au-dessus, des pharisiens vinrent le mettre à l'épreuve en lui demandant « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Il y avait toute une discussion chez les juifs de l'époque pour savoir comment, pour quelle raison pouvait répudier une femme. Sympa la discussion quand même, hein. Sympa. Et puis vous noterez que c'est très, ça va dans un seul sens. Bref. Et Jésus répond, verset 4, « N'avez-vous pas lu que le Créateur... » Ah tiens, vous avez vu Jésus, il fait le premier principe. Hein. « N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès le commencement, les fit homme et femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. » Voilà ce que Jacques Buchold appelle l'éthique de la sainteté, c'est-à-dire la perfection. C'est l'idéal. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Alors, cette phrase, on la connaît. Hein. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et on a raison de la connaître. Seulement, voilà. Ils lui dirent, verset 7, « Alors, pourquoi Moïse a-t-il commandé de donner une attestation de rupture à la femme quand on la répudie ?» Ça sous-entend que on la répudie. Et Jésus répond, c'est à cause de votre obstination que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, dans nos bonnes vieilles traductions, celles que j'ai dans l'oreille, c'est la dureté de votre cœur. Ça vous dit quelque chose, hein ? C'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il a fallu que Moïse en vienne là pour éviter que ce soit la foire complète, en quelque sorte, la décrépitude, le désordre dans la société, ben, Moïse a mis quelque chose en place pour les couples qui n'arrivent pas à suivre le plan du Créateur. Et là, on est dans l'éthique du compromis. On a choisi le moindre mal. Dans la même idée. Vous avez c'est ce qu'on appelle la loi du talion. C'est quoi la loi du talion ? Si Janine me donne un coup de poing et qu'elle me met l'œil au beurre noir, moi je lui rends pour œil. Je suis un peu à l'abri du risque avec l'exemple que je viens de citer, je pense. Œil pour œil, dent pour dent. Si Janine me fait tomber une dent en me donnant un coup de poing, voilà. Jésus, alors, va dépasser cette loi et la ramener vers la perfection, c'est-à-dire si ton frère te donne, ou si quelqu'un, Matthieu 5, si quelqu'un choisit, le frère c'est un peu violent peut-être, Matthieu 5, 38, ça vient, vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Et là, nous sommes, j'arrête un peu la lecture, là nous sommes dans une logique du compromis. Parce que ce n'est pas l'idéal de se venger. Mais c'est moins pire que si on se venge en faisant pire. Si il m'a fait tomber une dent et que moi je lui en fais tomber deux, après moi j'en perds quatre, mais on n'en a que 32, au bout du compte on n'aura plus de dents. Quoi. Ça va aller très vite, hein. Donc, c'est une logique du moindre mal. cette loi du talion, que Jésus veut ramener à la logique de la sainteté, c'est-à-dire, mais non, pardonne, ne rends pas le mal pour le mal. Alors, c'est compliqué, encore une fois, c'est pas simple, hein. Si quelqu'un te frappe, mais moi je vous dis de ne pas vous opposer au mauvais, verset 39, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui l'autre joue. Donc là, on a aussi deux logiques. Et dans nos choix, c'est pareil. On peut choisir le moindre mal, la solution la moins pire. Et elle aura un certain nombre de problèmes, de questions, mais on va la choisir parce que l'autre solution aura eu des questions plus difficiles encore. Ceci dit, et puis il y a des moments, il faut quand même trancher. On ne peut servir deux maîtres, a dit Jésus. Luc, chapitre 16, verset 13. 1 Corinthiens 10, c'est de nouveau chez Paul, aux Corinthiens, où Paul décrit des gens qui ont beaucoup de mal à prendre position. 1 Corinthiens 10, 20. Je suis désolé, je n'ai pas pu mettre de marque-page, on aurait eu beaucoup de trop pour que ce soit efficace. Corinthiens 10, 20. Que dis-je alors? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance? Ah oui, c'est là qu'on est de nouveau sur le point de la viande sacrifiée aux idoles. Et là, Paul a une approche vraiment différente. Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance? Qu'une idole aurait de l'importance? Non. Mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas partager la table du Seigneur à la table et la table des démons. Ou bien voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Alors là, c'est un principe qui va... cette difficulté que Paul souligne ici revient plutôt à la conscience de Dieu, pour le coup. Il y aura que tenir compte des tenants et des aboutissants. Je citais 1 Corinthiens 8 tout à l'heure, qui disait « Suivant l'endroit et les circonstances, tu peux faire ou ne pas faire. » Mais dans notre texte, nous avons, dans le texte de maintenant, du chapitre 10, nous avons clairement un retour à ce chapitre, à ce principe-là, où l'apôtre Paul trouve qu'il faut, à un moment donné, dire qui on est, s'affirmer et dire quels sont nos choix clairement devant ce monde. Un petit tour chez l'apôtre Jean pour dire que parfois c'est difficile et ne jetons la pierre à personne. Jean chapitre 12, j'espère de nouveau que j'ai bien écrit. Oui. Malgré, verset 37, malgré tous les signes qu'ils avaient produits devant eux, ils ne mettaient pas leur foi en lui. Donc ce sont des témoins des miracles que Jésus a faits. Mais au verset 42, cependant, même parmi les chefs, beaucoup mirent leur foi en lui. Donc on voit qu'il y en a qui n'ont pas cru, il y en a qui ont cru, même parmi les chefs, regardez la suite, mais à cause des pharisiens, et on parlait tout à l'heure des pharisiens, de leur regard courroucé contre Jésus, ils ne le reconnaissaient pas publiquement pour ne pas être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des humains plus que la gloire de Dieu. Lisons ce texte en hommage à nos frères et sœurs persécutés pour leur foi, qui osaient, au risque de leur vie, dire qu'ils étaient croyants. Alors, il y en a certainement qui n'osent pas. Je sais que on le dit parce que ça finit par se savoir quand même. Dans certains pays, là on parle beaucoup de la Corée du Nord en ce moment, certains pays du Golfe, on peut imaginer, on en a quelques bribes de témoignages, que des personnes se sont données au Seigneur, mais ne l'ont pas dit. Alors, ne leur jetons pas la pierre. Ici, le contexte est quand même un peu différent, mais il y a toujours cette idée... Mince, ils n'ont pas pris position. Ils n'ont pas fait le choix de s'affirmer. Donc, à un moment donné, c'est important de le faire. Ensuite, je termine la fin avec des questions. Le choix d'un roi. Vous savez, le peuple d'Israël, je reviens tout en arrière, le peuple d'Israël, à un moment donné, dans son histoire, au début, n'avait pas de roi. Ils étaient sortis d'Égypte, ils avaient eu des héros, hein, des forts à bras, des costauds. On les appelle les juges ou les libérateurs, comme Samson, comme Gédéon. Et puis, une longue période dans laquelle il ne va pas y avoir de structure nationale très fixe par les prophètes, comme Samuel, par exemple. Et c'était vraiment un régime religieux à 100%. Puis un beau matin, le peuple a regardé autour de lui et a vu que tout autour de lui, il y avait des rois. Et le peuple était dirigé par un roi. Et le peuple a demandé un roi. Et à plusieurs reprises, il est écrit, comme toutes les autres nations autour de nous, nous voulons un roi. Et Samuel leur dit, bah, attends, si tu veux un roi, il va te coller des impôts sur le dos, il va te prendre ton personnel, il va faire la guerre, il va vous... Oh là là, il leur faisait pas envie. On s'en fout, on veut un roi. Bon. Et un des textes du livre de Samuel dit, bon, enfin, c'est le chapitre 8, en fin de compte, c'est parce qu'il rejette Dieu. Bon. Ben là, c'est pareil. On voit quelles sont les motivations de ce peuple. Qu'est-ce qui a motivé leur choix d'un roi de faire comme les autres? Qu'est-ce qui avait motivé les chefs qui se convertissaient? C'était de ne pas offenser les pharisiens. Vous voyez qu'à un moment donné, on est sous des pressions. Quel va être notre choix à ce moment-là? Certains vont s'affirmer, comme Daniel à la cour du roi de Babylone. D'autres vont faire autrement. Chacun fera comme il le pourra, et en essayant d'être le plus mûr possible dans ses choix. Puisqu'on parle des rois d'Israël, prenez Saül, en parlant de l'urgence cette fois. Il fallait partir en guerre, Samuel n'était pas là, il fallait offrir un sacrifice. Or, le roi ne devait pas offrir un sacrifice. Et là, Saül explique, Samuel, 1 Samuel 13, versets 9 à 13. Saül explique, bah, écoute, on n'avait vraiment plus le temps, fallait le faire. Hein. Tu n'étais pas là, donc bah, je l'ai fait, quoi. Pas grave, je l'ai fait. Eh oui, erreur. Un choix sur l'urgence n'est pas toujours bon. Si Saül avait pris du recul, il aurait fait autrement. Mais là, il n'a pas réfléchi. Et il a fait une bêtise. Bon, peut-être qu'il a aussi prétexté l'urgence pour désobéir. Ah, bah Saül, toujours lui. Chapitre 15, cette fois. Ils ont eu la victoire sur une des batailles avec les voisins. Enfin, c'est une période très, très agitée. Hein. Beaucoup de guerres, beaucoup de morts. Et alors, il y avait une pratique des Israélites et d'autres, d'ailleurs, c'était de tuer tout. Alors ça fait partie des choses qui, pour nous, chrétiens, sont sans doute difficiles à comprendre, c'est que l'ordre de Dieu était de tout tuer. Les bêtes, les gens, tout le monde. Y compris les bêtes. Puis alors il y a une scène où Saül revient en victoire, et Samuel l'accueille, et puis Samuel entend des bruits d'animaux. Et là, Saül qui dit, ouais, ben non, mais on a gardé les meilleures bêtes. Hein, Et voilà, de nouveau. On a gardé les meilleures bêtes pour les offrir. Vraiment le bon prétexte, quoi. On aurait eu du mal à obéir à cet ordre. Hein. C'est toujours pareil, c'est facile de se moquer. C'est pas ma faute, a dit Saül, c'est le peuple. Allez faire un petit tour au tribunal de police de Mulhouse. Et le « c'est pas ma faute », vous l'entendrez. J'y ai fait quelques séjours. Alors je précise, non pas en tant que prévenu, mais en tant que, comment on dit, celui qui porte plainte, ou qui suit une affaire. Mais c'est pas ma faute, j'ai été entraîné. Je me suis laissé entraîner, mais c'est eux les méchants, moi, madame le juge, je suis un brave type. Ah oui, les choix. On est tous entraînés. Hein. Encore une fois, on n'est peut-être pas allé au tribunal, mais c'est vite fait. Hein. les choix, des choix mûrs. J'arrête là pour les quelques exemples, parce qu'à chaque fois, dans ces exemples, je pense que si on arrive à faire à appliquer ces sept choses-là, en choisissant les bons thèmes, on arrive à avoir des choix mûrs. Vous avez des questions, des remarques? J'étais un peu long, excusez-moi. Non, j'étais tellement long qu'il n'y a plus de remarques. Alors, rendez-vous la semaine prochaine dans les groupes de maison, où là, il y aura la reprise de ces éléments-là sous forme de questions pour approfondir et pour peut-être aussi voir les choses autrement. Hein. C'est une approche que je vous propose, très personnelle, mais c'est pas la seule, il y a certainement des tas d'autres choses. Donc j'espère que je vous donne envie d'aller maintenant dans les groupes de maison qui seront annoncés dimanche. Voilà, toujours pas de questions ? Oui.
Il y a des choix qui peuvent correspondre à tout. Je veux dire, il n'y a pas un qui est mauvais ou un qui est bon.
Oui, c'était un peu ce qui était marqué dans le quad 9, choisir entre bien et bien et mal et mal. Quand je disais qu'il n'y a pas de choix idéal, ou je ne sais plus ce que j'ai marqué, de choix parfait, oui, il n'y a jamais une solution qui est parfaite. Même la meilleure solution, on peut aussi dire que c'est la moins mauvaise. Et parfois, effectivement, il y a des choix qui peuvent être faits parce qu'on a choisi d'autres choses avant. Je donne un exemple. De mon point de vue, un élément de base dans ma réflexion, c'est de faire toujours attention aux personnes qui sont les plus faibles. Les enfants, notamment. Et régulièrement, quand j'ai... dans des cadres de vie familiale compliqués ou en responsabilité de séjour aux vacances, quand il s'agit de tenir compte, de faire un choix sur une mesure de par exemple une exclusion ou pour un séjour vacances ou un avertissement, d'appeler les parents, faire toutes sortes de choses, et toi qui travailles à l'école, j'imagine que tu as 10 fois, 100 fois plus d'exemples. Pour moi, le critère, ça va être l'intérêt, on le dit d'ailleurs, l'intérêt de l'enfant. Mais ça peut dicter ensuite des choix. L'intérêt de l'enfant, ça pourra être d'avertir les parents, ou pas. Ça pourra être de prévenir les services sociaux, ou pas. C'est l'intérêt de l'enfant qui va dicter un choix, qu'on fera différemment si on n'a pas l'intérêt de l'enfant comme élément de base, comme critère de base pour faire les choix. Mais si on a, par exemple, je ne sais pas, moi, la paix dans le groupe, qu'il n'y ait pas de problème dans le groupe, qu'il n'y ait pas de dispute, par exemple. Donc, effectivement, aucun choix... je choisis de ne pas assassiner mon voisin. Ça, c'est un bon choix. Mais en même temps, j'espère qu'il aura le même, d'ailleurs, à mon égard. Oui, là, c'est facile. Choisir entre bien et mal, entre voler et pas voler, oui, ben oui. Et encore. Et encore. Ça peut se compliquer très vite. Donc, merci, oui, il n'y a aucun choix qui est sans problème, quoi. Oui ? Ce que Martin dit, c'est qu'on trouve aussi, quand on a fait les mauvais choix, la compassion et le pardon auprès de Dieu. L'histoire du peuple d'Israël, que j'ai abondamment citée, en est la preuve, effectivement. Et de nombreuses fois, des possibilités de retour, de recommencer, de remettre les bases. Ouais. Et heureusement, parce que dans ma vie, c'est ça. Les mauvais choix sont légion, et Dieu est bon, et nous... C'est le principe de la grâce. Merci beaucoup. La parabole de la perle, où un homme avait trouvé ou un trésor, et donc il a vendu tout ce qu'il avait pour acquérir cette perle ou ce trésor, Et donc, c'est une comparaison qui peut être faite avec les valeurs, les richesses du monde dans lequel nous vivons, et les richesses que nous trouvons auprès de Dieu. Mais là, encore une fois, ce point 1, là, le choix mûr à conscience de Dieu, te donne raison. C'est effectivement... Pourquoi faire le choix de venir le dimanche matin à l'église ou le mercredi soir à l'église alors que vous auriez certainement à faire aller, je ne sais pas, faire une journée de nature dans les Vosges ou d'aller au bowling ou d'aller je ne sais où. Pourquoi on fait ce choix-là? Parce qu'on a compris qu'il y a des bonnes choses, enfin j'espère, qu'il y a des bonnes choses qu'on vient chercher là et on fait le choix de venir parce qu'on a compris, on a conscience de Dieu. Et on a compris qu'en plus, l'ignorance dessert la conscience, etc. Donc, on va se nourrir là. Et parce qu'on a compris qu'il y a des valeurs là, il y a des bonnes choses là. Ok ? Bon, bah, la suite, la semaine prochaine, prions. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as choisi de nous aimer. Tu as choisi d'être notre Dieu. Et nous te prions que nous ayons cette maturité dans nos choix. C'est loin d'être facile. Mais Seigneur, nous te prions que tu nous inspires. Nous avons besoin de ta grâce, comme cela a été dit. Nous avons besoin de ton pardon lorsque nous chutons, lorsque nous faisons des choix néfastes. Et nous te prions que nous sachions prendre des décisions qui soient pleines de ta présence. Nous te louons. Amen. Bonne soirée.